Nous l'avons entendu tout à l'heure, à l'instant, dans la deuxième lecture, l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas tout donner? Comment ne pourrait-il pas tout donner? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est cette foi qui est la nôtre. Dieu donne tout, il veut tout donner, et la preuve la plus forte, c'est qu'il donne son Fils unique. Il est plus difficile, je pense que les parents parmi nous le confirmeront, il est plus difficile de donner son enfant que de se donner sa propre vie. Et c'est vraiment cette réalité-là que Dieu a exprimée en donnant son Fils, en livrant son Fils, comme nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et nous avons en première lecture Abraham, pour qui Dieu demande un acte de foi très grand, et de donner son fils, un peu comme toutes les religions environnantes le demandaient. Il y avait des sacrifices humains dans les religions naturelles, avec ces déviances que pouvaient représenter les sacrifices humains. Et donc Dieu demande la même démarche. Abraham, dans la foi, accepte. Mais à la différence des autres religions, c'est qu'ils savaient qu'il y aurait une issue. Ils ne savaient pas laquelle. Et en effet, nous l'avons entendu, Dieu retient la main d'Abraham au dernier moment, puisqu'il avait le couteau dans les mains, donc c'était vraiment la fin. Au dernier moment, et un bouc va être immolé à la place de son fils Isaac. Ce bouc est la préfiguration de l'agneau de Dieu, de Jésus. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sacrifice ultime, l'unique sacrifice, il n'y en a pas d'autre, il n'en faut pas d'autre. L'unique sacrifice, c'est celui du Fils de Dieu qui a pris chair de notre chair et qui s'offre par amour pour nous et qui meurt pour nous alors qu'il n'était pas coupable. C'est là notre foi, et à travers cette offrande, Dieu donne tout. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas tout donner? Dieu donne tout. Et c'est cette foi-là dans laquelle il nous faut grandir. Dieu donne tout, il veut tout donner. Et si il nous semble que nous avons des limites, nous avons des résistances, que nous avons plutôt... S'il nous semble que Dieu ne nous donne pas tout, comme on pourrait l'espérer, comme on pourrait l'attendre, le problème n'est pas de son côté à lui... À Dieu, évidemment. Il est de notre côté à nous. Mais il le sait. Et il est plein de miséricorde pour nous. Rassurons-nous quand même. Mais tout de même, il est de notre côté. Et finalement, toute la démarche que nous vivons en ce temps de carême en particulier, mais durant toute notre vie d'une façon générale, c'est de nous ouvrir à ce don total de Dieu qui nous sauve, qui nous sanctifie, qui veut tout nous donner. Le mystère de la transfiguration, cet événement de la transfiguration, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. On aurait très bien pu imaginer la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus sans la transfiguration. On s'est dit, pourquoi finalement il y a eu cet événement? Surtout qu'ils n'ont pas pu en parler. Il fallait qu'ils attendent que Jésus soit ressuscité pour en parler. Eh bien simplement, le mystère de la transfiguration nous montre que l'intention de Dieu de tout donner, dès maintenant, dès avant la fin, dès avant notre fin de vie, dès avant notre passage au ciel, Dieu veut déjà tout donner. L'expérience de la transfiguration est une expérience commune des chrétiens, des futurs baptisés, puisque cet évangile du deuxième dimanche de carême est choisi par l'Église en raison des catéchumènes. Et donc, c'est fait pour nous rappeler aux catéchumènes, courage, Dieu va tout donner, va vous donner en abondance. Il nous renvoie à l'expérience que les catéchumènes ont fait de la présence de Dieu, parce que sinon, ils ne demanderaient pas le baptême. Un catéchumène, à la fois, avant d'avoir reçu la grâce du baptême, puisque c'est ça qui va le faire rentrer dans la démarche catéchuménale. Et donc, il a déjà fait cette expérience de Dieu, et de même, nous aussi, nous avons déjà fait cette expérience de Dieu. Donc déjà, nous avons fait l'expérience de la transfiguration. Mais il ne faut pas en rester là. Dieu veut donner davantage. Il veut donner bien plus. Et pour que nous puissions finalement accueillir ce tout de Dieu, hein, cette totalité que Dieu veut faire, hein, ce don surabondant qu'il veut faire dès ici-bas, eh bien, il nous faut nous disposer pour cela. Donc il y a plusieurs aspects pendant le carême, vous le savez, hein, le détachement des biens matériels à travers l'aumône, à travers le service du frère, et il ne faut pas négliger cet aspect-là. Le jeûne, un rapport à nous-mêmes et à nos plaisirs désordonnés, parce que tout n'est pas mauvais, hein, mais désordonné, où il nous faut remettre de l'ordre là-dedans, à travers une certaine ascèse. Et puis le rapport à Dieu à travers la prière. Et la transfiguration nous invite, c'est une interpellation pour disposer notre vie à une vie de prière, avoir une vraie vie de prière. L'expérience de la transfiguration, tous les pères le diront, se vit dans la prière. Il y a cette expérience de la rencontre de Jésus qui fait qu'on devient chrétien, qu'on demande le baptême, ou même quand on a été baptisé petit, qu'on reste fidèle à notre vie chrétienne, on a envie de vivre en chrétien, parce qu'on a rencontré Jésus vivant, mort et ressuscité pour moi. On a fait cette expérience de la transfiguration avant même d'aller au ciel. Et puis ensuite, il y a cette fécondité de cette expérience qui se vit dans la vie de prière, en particulier, en premier lieu, dans l'Eucharistie, qui est une véritable épiphanie, un véritable lieu de transfiguration. Hein, moi, ce n'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a un certain nombre de prêtres, saints prêtres, mais aussi de fidèles, j'en suis certain, qui voyaient, quand ils célébraient l'Eucharistie, ils voyaient les anges, ils voyaient les saints qui s'inclinaient devant le mystère eucharistique, devant ce qui se produisait. Ils vivaient une véritable transfiguration, une expérience transfigurante au moment de la célébration de l'Eucharistie. Et puis, il y a ensuite le déploiement des sacrements et de l'Eucharistie dans notre vie qui ne peut se vivre que par une vie de prière réelle, concrète, audacieuse. Je voudrais prendre comme témoin de cette nécessité de la prière Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, parce qu'on ne peut pas, tout simplement, parce qu'on ne peut pas la soupçonner, elle, de s'être enfermée dans la prière et d'avoir rien fait à côté. Au contraire. C'est le contraire et elle-même l'exprime. Chaque moment de prière, dit Mère Teresa, est à coup sûr un gain positif. Le temps que nous passons chaque jour avec Dieu est le moment le plus important de toute notre journée. Le chrétien prie pour accueillir Dieu, pour que le tout de Dieu, parce que Dieu veut tout donner, pour que Dieu puisse vraiment vivre en lui, agir en lui, se donner à lui, et le transfigurer, et le transformer intérieurement. Aussi, la difficulté pour nous, aujourd'hui, c'est sans aucun doute de prendre le temps de la prière. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes pris par l'activisme et il nous faut nous extirper de notre activisme pour prendre le temps de la prière. Et donc, ça, c'est sans doute un des défis les plus importants. J'en ai discerné deux pour nous aujourd'hui. Le premier défi, c'est prendre le temps. Ceux qui font le parcours Exodus, ils doivent faire une heure de prière par jour. Et je sais que certains m'ont témoigné, parce qu'ils ont une vie bien remplie, que c'est difficile. Et je les comprends. Je ne suis pas du tout en train de faire la morale. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Cette ascèse-là vaut la peine. Redonner du temps. Limiter autre chose pour donner du temps. Non pas limiter le temps familial, c'est pas rien à voir. Mais limiter le temps qu'on perd sur autre chose, sur certaines distractions inutiles. Non pas qu'il ne faille pas se détendre là aussi, mais il faut se détendre avec mesure. Il faut prendre le temps. Le pape François l'a souvent dit. Il dit qu'on est dans une société de loisirs et qu'en fait, le loisir, c'est pire que tout. C'est plus que tout. Mais on ne vit pas pour le loisir. Même s'il nous faut nous détendre, attention. Il faut nous détendre, il faut prendre des vacances. Ça, tout ça, c'est bien. C'est la question de mesure, d'équilibre. Et notre équilibre, notre repos, se vit aussi dans la prière. La prière, c'est... Il nous faut prendre le temps. Et comme dit Saint Climaque, qui était un maître de prière... Il dit, comment faire pour apprendre à prier? Parce que certains disent, je ne sais pas prier. Pour apprendre à prier, dit saint Climat, qui nous donne une solution incroyable, pour apprendre à prier, il faut se mettre à prier. C'est pas beau la solution ? Il suffit de se décider, prendre le temps, donner le temps. Pour apprendre à prier, c'est un maître de prière, hein, donc c'est pas n'importe qui parle, c'est pas moi. Il faut se mettre à prier, donc prendre le temps. La deuxième condition que je pense qui est difficile aujourd'hui, c'est le silence. Le silence parce que nous sommes dans une société bruyante. Avec tous les moyens modernes de communication, nous avons de la radio dans les voitures et dans la maison, la télé, les ordinateurs, les écrans. Nous avons du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le silence finit par nous faire peur parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes, nous met face à nous-mêmes. Nous n'avons pas trop envie. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, certes, ça nous met face à nous-mêmes, mais il nous faut nous tourner vers Dieu. Grâce au silence, nous tourner vers Dieu. Nous parler à Dieu, dialoguer avec Dieu, aimer Dieu. Il ne s'agit pas de penser ou de parler beaucoup, mais il s'agit de beaucoup aimer quand on prie. Voilà. Donc le deuxième défi, c'est le silence. Et Mère Teresa, toujours elle, dit ceci. Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Et nous voyons dans les dynamiques que nous ne sommes pas dans une démarche moraliste, artificielle, où nous nous mettrions en service parce qu'il faut. Il faut servir. Ben, c'est vrai, il faut. Il faut parce qu'on est chrétien, il faut parce que c'est bien de servir le prochain. Mais il faut bien comprendre, il faut aller à la source. La source, c'est Dieu, et c'est par la prière que nous la trouvons. Et c'est le silence qui nous permet de rentrer en prière. Donc demandons à Dieu cette grâce. Demandons à Dieu cette grâce d'entrer dans la prière, de prendre le temps, de mesurer l'importance de la prière, parce que Dieu veut tout donner. Et s'il ne donne pas tout, c'est parce que nous ne sommes pas dans les bonnes dispositions et donc nous ne donnons pas assez de temps à la prière, nous ne mettons pas la prière assez présente dans notre vie. Le pape Benoît XVI écrira à propos de Mère Teresa. La bienheureuse Thérèse de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en réalité en est la source inépuisable. En est la source inépuisable. Donc mettons les choses dans le bon ordre. Commençons par donner du temps à la prière, en sachant que cette prière va nous donner d'accueillir la présence de Dieu dans nos vies. Et cette présence de Dieu va nous inviter à servir et à aimer notre prochain. Amen.